Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous, amis joueurs, amis joueuses, bienvenue dans C'est Ludique, votre seule émission quotidienne à la radio qui parle de jeux de société. Et aujourd'hui, si vous aimez jouer à deux et que vous êtes plutôt fan de Love Letter, eh bien j'ai le jeu qu'il vous faut. Et puis on retrouvera aussi Ludo pour le point sur les jeux. On va parler du prix des jeux aujourd'hui. C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Nat pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, donc, c'est Wizards Cup, un jeu de Seiji Kanai, l'auteur de Love Letter notamment, illustré par Yamamori, un jeu de cartes qui s'apparente à de l'auto-battler, une mécanique où les joueurs placent des personnages sur un champ de bataille pendant une phase de préparation, puis les personnages combattent ensuite les personnages de l'équipe adverse de façon automatique. Wizards Cup, c'est un jeu pour deux joueurs à partir de 12 ans, édité par la boîte de jeu, où votre but est de remporter le plus grand tournoi de magie. Oui, vous allez incarner des sorciers. Alors au niveau matériel, ce sont 36 cartes avec des sorciers. Chaque joueur aura son propre deck de 18 sorciers. Et bien voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? Eh bien la première chose est de sélectionner 6 cartes sur 18. C'est pas si évident de ça. Chaque joueur va choisir les cartes qu'il souhaite et va les ranger de la façon où il veut les voir apparaître dans son deck. L'ordre est très important, sachant qu'à chaque manche, vous ne jouerez que 5 cartes sorciers sur les 6. En plus, votre adversaire en choisira une des cartes au hasard. Au début du tour, chaque joueur va révéler la carte du dessus de son deck. Et on va comparer les éléments et ou la valeur des deux cartes. Mais on regarde d'abord le pouvoir magique du sorcier. Puis les éléments, donc il y en a 6, et si ça ne suffit pas pour départager les deux cartes sorciers, on compare leurs valeurs. Alors concernant les éléments, ils ont des forces et des faiblesses. La lumière est battue par le feu, l'eau et la nature, le feu est battu par l'eau par la nature par le feu, les ombres par la lumière et le néant n'a aucune faiblesse. Et si ça ne suffit pas pour les départager, c'est la plus forte valeur qui l'emporte. Vous verrez donc certains sorciers n'ont pas d'attributs mais ont des valeurs quand même très fortes. La carte battue sera visible dans la défausse du joueur et ça pourrait être intéressant, on va y revenir. L'autre, elle, reste dans la bataille, oui, le joueur battu doit lui piocher une nouvelle carte de son deck et ainsi de suite. Si certains pouvoirs se déclenchent dès que la carte est révélée, d'autres se déclenchent aussi si la carte est visible dans la défausse. Et d'autres pouvoirs pourront changer la règle de base. Au lieu que ça soit la plus forte valeur qui l'emporte, ça peut être la plus faible qui l'emporte. En gros, on regarde d'abord le pouvoir immédiat du sorcier, les pouvoirs permanents et dormants, les éléments, puis les valeurs. La manche s'arrête dès que l'un des joueurs arrive à vider le deck de l'autre. Il gagne un point. Dès que vous avez deux points, bah vous remportez la partie. Alors après la première manche, vous reprenez vos 6 cartes. Vous pouvez en enlever une et en choisir une autre. Et vous choisissez de nouveau les 5 cartes que vous souhaitez et l'ordre dans lesquels vous voulez qu'elles apparaissent dans votre deck. En ayant désormais maintenant, plus d'informations sur les sorciers que vous allez affronter. Voilà, alors ce que j'en pense de Wizards Cup, c'est un petit jeu de bataille avec un côté challenger. On a envie de construire la meilleure équipe de sorciers. Allez, c'est lui qui va partir au combat en premier, car vous êtes sûr de gagner. Sauf que c'est un sorcier de feu, et que si votre adversaire pose un sorcier haut, et ben il y a de fortes chances que vous perdiez le premier combat. Mais ça, vous ne le savez pas. Et c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Il faut pas mal réfléchir pour créer la meilleure équipe. Son équipe, son prix et également sa force. Moins de 10€, et ça se joue rapidement. Bonne pioche si vous aimez jouer à Love Letter, mais que vous n'êtes que deux. Voilà, ça s'appelle Wizards Cup, c'est un petit bijou de joueurs et ça vient de sortir chez la boîte de jeu.
C'est la pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les G.
Le point sur les J, eh bien c'est tous les lundis avec Ludo, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu Ludo au téléphone. Salut Ludo.
Salut à toutes et à tous, et oui ça faisait 2 ou 3 semaines on était déjà.
Voilà, ça passe vite, ça passe vite, et aujourd'hui on va parler d'un sujet important. Les prix des jeux sont-ils élevés?
Exactement, alors on va se poser la question, trop cher ou pas nos jeux de société en France? On va commencer par essayer de voir de quoi on parle. En 2022, selon le site Ça m'intéresse, un site très généraliste qui fait des comparaisons de prix, le prix moyen d'un jeu de société était de 17,12 €. Et donc ça, c'est une étude qui est sortie en août 2023. Et selon le GIGS, dans son panorama du secteur du jeu de société qui date de 2024, le prix moyen est désormais à 18,30 €. Voilà. Okay. Ça fait une petite augmentation d'1,18 €, environ 6,5%, c'est-à-dire un tout petit peu plus que l'inflation, qui en juillet 2024 était aux alentours de 5,2%, source ministère de l'économie, cher Mathieu.
Très bien.
Alors,
très
avec 18,30 €, qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter 18 baguettes de pain, si on veut, 15 chocolatines, nous on dit chocolatines ici, une place de ciné en 3D dans une grande ville française, un peu plus que le prix moyen d'une BD aussi, un paquet de 30 cigarettes pour ceux qui ont une addiction pas terrible pour les poumons, et puis 11,12 litres de gazole ou 10,38 litres de SP95 à la pompe. Au moment où j'écris ce texte, je ne sais plus quand est-ce que c'était, ça bouge tout le temps.
C'est clair.
Si on regarde deux autres marchés francophones, c'est bien aussi de se comparer comme la Suisse et le Canada, on va remarquer des différences qui sont assez notoires. Alors, en Suisse, le prix des jeux de société est en moyenne plus cher de 20 à 30%.
Ah, quand même.
Oui, et au Canada, alors là c'est assez marrant, ça oscille entre moins 10 et plus 10%.
D'accord, ok.
Voilà.
Ça dépend.
Alors il y a des
jeux.
Questions de législation, il y a des questions de décisions économiques, etc., sur les importations. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour expliquer tout ça. Mais de toute façon, en Suisse, les importations en général sont très taxées.
D'accord, ok.
Alors, si en ce moment l'ensemble des structures représentatives des professionnels du secteur du jeu de société se fédèrent et revendiquent que le jeu de société soit assimilé à un bien culturel, et on va y arriver, youpi, ce n'est pas pour autant qu'il soit soumis à la loi Lang. Tu sais, c'est la loi relative au prix du livre qui instaure un prix unique du livre en France.
Ouais.
C'est pas une demande du secteur, parce que la loi est faite pour limiter la concurrence sur le prix de vente du livre afin de protéger la filière et de développer la lecture en France. Non, nous, le prix de jeu de société en France est donc libre et les associations, etc., professionnels veulent le garder tant que tel. Après, on est d'accord que par mesure de respect de la concurrence et pour maintenir un prix moyen cohérent, on constate que le prix est relativement stable chez les ludicaires en France, que ce soit dans les boutiques ou en ligne, avec des différences qui vont de 5 à 10% parfois sur le prix de vente publique. Bien sûr, tout ça, c'est sur un jeu neuf, en dehors des promotions, soldes, Black Friday, journée de la crêpe, etc.
Journée de la crêpe, pas vrai, chez nous, il y a souvent la journée de la crêpe.
Oui, tu vois, voilà. Alors, parlant de ça, ça n'empêche pas que le prix de vente moyen bouge et que différents critères rentrent en compte dans la fixation du prix de vente d'un jeu. On va les balayer assez rapidement, mais c'est juste pour montrer en fait tout ce qui va rentrer en conséquence quand on va fixer un prix de vente pour un jeu de société. Alors, il va y avoir les coûts de production, les matériaux, le nombre de pièces, les coûts d'impression, etc. La conception et le développement, ça c'est hyper important parce que c'est du temps et des ressources qui sont investies dans la recherche,
le
design, les prototypes, les tests, le développement du jeu et puis les rémunérations des auteurs, illustrateurs, autrices, développrices, etc. On va aussi voir le tirage et l'échelle de production. Un tirage limité ou une production à petite échelle, ça peut augmenter le coût unitaire d'un jeu, tandis qu'une production de masse peut permettre de réduire assez fortement les coûts. Alors on a aussi la logistique et la distribution, c'est très lié aussi au tirage, les coûts de stockage, de manutention, de transport, droits de licence parfois, ça rentre aussi en compte. Quand on met du Batman, quand on met du Dead Cells, quand on met des choses comme ça dans nos jeux, du Harry Potter ou autre,
eh ben oui, il y a la licence à payer.
Ça a un coût, exactement. On a le marketing et la publicité. Bon, c'est des dépenses qui peuvent pour promouvoir le jeu, les campagnes publicitaires, les événements, les échantillons, les copies presse, par exemple.
Ben oui.
la marge commerciale, parce que pour qu'un éditeur vive, eh ben, il faut bien qu'il dégage du bénéfice sur ses ventes, et donc c'est ce qu'on appelle la marge. Donc les éditeurs et distributeurs vont se rémunérer. Et puis en fait, on a aussi enfin les taxes et droits de douane, donc la TVA, mais tout autre aussi quand il s'agit de développer ou en tout cas de faire produire ou de vendre son jeu sur d'autres territoires. Mmh. Alors, si la marge, le budget marketing de pub, la conception et le nombre de jeux sont des montants qui sont plutôt contrôlés par l'éditeur, parce que c'est lui qui va choisir en fonction de sa petite popote, il en est autrement des coûts logistiques et des coûts de la matière première, des taxes qui sont plutôt des données qui sont plutôt macroéconomiques et qui vont varier selon le climat actuel mondial. Alors les conflits, la météo et puis d'autres raisons non contrôlables par les concepteurs du jeu. Par exemple, il y a peu, il y a eu le passage par le canal de Suez des bateaux containers qui venaient d'Asie qui étaient impossibles à cause des pirates des mers outils en mer Rouge.
Ouais.
Et c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que les containers se faisaient attaquer, donc la décision avait été prise de ne plus passer par là et ça fait
peut-être
du coup,
que les pirates aimaient jouer.
Oui. Et ça a obligé donc les bateaux à contourner l'Afrique par le sud pour arriver en Europe. Je sais pas si tu vois l'augmentation.
Du coup, forcément.
Alors il y avait aussi une autre petite anecdote de l'autre côté du monde qui était venu s'ajouter, un problème de sécheresse qui touchait le lac du canal du Panama. Il y a un lac à cet endroit-là, en Amérique centrale, et qui empêchait les navires, notamment les plus imposants, hein, de passer en sécurité à travers l'Amérique. Et oui, on passe à travers l'Amérique, on ne contourne pas l'Amérique.
Alors, on passe à travers.
En août 2023, accroche-toi à ta chaise,
avec une sécheresse
exceptionnelle, 163 bateaux, un record, attendaient de passer le canal. Là, ils étaient posés, tranquilles, en sifflotant du carburant, là, tu vois, en plein soleil.
Effectivement,
c'est énorme.
163, c'est beaucoup, hein, quand même.
C'est énorme, puis je ne te parle pas de petits bateaux de plaisance. Bien sûr, on parle de gros containers qui font plusieurs centaines de mètres chacun. Alors après la crise du Covid qui avait fait augmenter le prix des conteneurs d'à peu près plus de 400% par endroit, et le blocage du canal de Suez, encore une fois, mais pas pour la même raison, là c'était par le méga navire Ever Given, je sais pas si tu te rappelles, qui s'était mis de travers au niveau du canal de Suez. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, le mec, je sais pas, il devait être bourré. Il a dû faire un demi-tour. Il a oublié un truc chez lui. Je sais pas ce qui s'est passé. La situation est moins problématique actuellement en termes de coûts, mais ça reste quand même très compliqué en termes de délai.
Ouais.
Et comme le temps fait de l'argent, eh ben, ça a un impact aussi sur le prix.
Mais on le voit actuellement. Hein, on le voit actuellement qu'il y a déjà des éditeurs qui repoussent leur sortie parce que les jeux vont pas arriver à temps.
Exactement. Et quand on parle de prix trop élevé, on sous-entend qu'il y a une espèce de prix qui est accepté, un prix plus bas qui est accepté.
Ouais.
Alors c'est plutôt du côté des acheteurs, du coup, qu'on va aussi, donc des clients, qu'il faut se tourner pour avoir une idée d'un prix acceptable. Alors, il y a un sondage sur le site de Gus & Co qui date de 2023 qui permet d'avoir une petite idée du ressenti des joueurs par rapport à ça. Alors, avant de jeter un œil aux résultats, sachez que ce site n'est aucunement un institut de sondage.
Ouais.
Donc, il faut prendre les résultats avec une certaine distance. Mais bon, comme il n'y avait rien d'autre, voilà.
Hein. Ah, sûrement, ils n'ont pas été faits avec l'intelligence artificielle, les résultats, non ?
Encore une fois, je ne sais pas, ça colle à la peau. Hein. Alors, à la question, quel est selon vous le prix maximum acceptable pour un jeu de société standard ? La majorité des répondants, environ 54%, considèrent que le prix maximum se situe entre 40 et 60 euros. Alors, ne serait-ce qu'avec cette réponse, on constate que les sondés font partie des passionnés du jeu. Hein. On n'est pas sur le grand public. Alors, si on leur demande s'ils sont prêts à payer plus cher pour des composants de meilleure qualité, il y a quand même 75% à peu près des répondants qui sont prêts à payer plus cher si les composants de meilleure qualité apportent un vrai plus au jeu.
Ouais.
Ça, c'est important. Et 7% disent oui sans hésiter à payer plus cher pour une meilleure qualité. Alors, on est quand même assez regardant sur la qualité, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Il faut que ça apporte des trucs. Alors, preuve que le niveau de prix est un facteur essentiel dans le passage à l'acte d'achat d'un jeu, la grande majorité des répondants, et là on parle de presque 90%, on est à 86%, ont déjà renoncé à acheter un jeu à cause de son prix.
D'accord.
Alors, soit souvent, soit à quelques occasions. Alors moi je pense que rien n'est trop pas assez en fait. Hein. Ça dépend essentiellement de l'importance que chacun va conférer à ce loisir, à son propre niveau de vie, ses besoins, etc. On peut se poser la question, si le jeu de société ne va pas rejoindre rapidement la bulle des activités récréatives et culturelles limitées aux personnes aisées, et que si les prix continuent de progresser, ça va pas un peu nuire au secteur dans sa globalité.
Après, il y a des petits jeux avec un jeu que j'ai présenté aujourd'hui, c'est moins de 10 euros, ça s'appelle Wizards Cup et c'est vraiment très bien, quoi.
Exactement, de toute façon, il faut un peu analyser le marché,
un peu voir ce qui
nous intéresse. Et puis, Matt, il n'y a pas que le jeu, dans le prix du jeu, il n'y a pas que le jeu neuf.
Pour
contrebalancer, il y a aussi des sites de vente de jeux d'occasion qui se portent vraiment très bien.
Mmh.
Alors, soit ils sont très très connus mais pas trop spécialisés comme Le Bon Coin ou Vinted,
ouais.
Ou bien inversement, ils souffrent en dehors de passionnés d'une méconnaissance, ils sont plutôt réservés aux initiés comme au Casio.
Ouais, voilà. Ouais.
Et ici, les prix des jeux ils vont varier en fonction de leur rareté. Alors, ça peut être... le jeu n'est plus reprint, donc du coup, il va prendre de la valeur. Il n'est pas localisé en français, donc c'est bien de faire de la veille au niveau des informations. Mais dessus, ça peut être la hype du moment. Après SN, par exemple, le jeu a été mis en avant et mis par les éditeurs et par des influenceurs. Donc là, le jeu il peut prendre de la valeur. C'est souvent d'ailleurs après Cannes et SN que les jeux peuvent arriver aussi sur les sites d'occasion comme ça. Ça peut être des erreurs d'achat également.
Bien sûr.
Alors pour la rareté, principalement un arrêt de production, on peut prendre un exemple, le jeu qui était proposé entre 40 et 100 euros sur Vinted et entre 55 et 160 euros sur Ocaseo. Alors on parle d'un très bon jeu à 2 ou 3 joueurs, mais qui date de 2015, donc il a même pas 10 ans, et qui se vend encore en VO en ligne à 70,9 €. Est-ce que tu l'as le jeu ?
70,9 € en ligne
Ouais, 40 et 100 euros sur Vinted et 55 et 160 euros sur Ocaseo.
Non, comme ça, je l'ai pas forcément.
Gueule noire.
Gueule noire.
Ouais.
Je ne le connais pas, Ludo.
Donc, il y a des jeux comme ça où, en fait, le jeu, lui, Gueule noire, il a été réédité en 2023 sous le nom de Call Baron. Chez CNC Publishing à 50 euros sur KS, c'est des Français qui ont fait ça. Et en fait, je pense que sa rareté, je pense qu'elle a poussé l'éditeur en fait à rééditer ce jeu en se disant il y a une vraie demande quoi, tu vois.
Ouais.
Celui-là il se vend, je te dis en moyenne à 80 euros sur Ocaseo. Après le jeu, ça reste un jeu. Alors c'est aussi l'occasion, un moyen de redécouvrir un jeu, de réveiller des sensations enfouies, de se rendre compte que c'était mieux avant, que c'est pas toujours faux. Moi par exemple, tu vois, j'ai déniché un toucher-coulé computer de 1982 sur Vinted.
Un toucher-coulé
Tu vois, c'est qu'un toucher-coulé, tu vois, c'est chez MD.
Et tu l'as payé
Je l'ai payé 30 balles. Alors,
quand même.
Il y avait des annonces à 100-120 euros. Hein, je te préviens.
D'accord.
Je suis tombé quand même sur quelque chose. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai pas arrêté d'y jouer avec mes enfants ce week-end.
Donc ça veut dire que les vieux jeux prennent de la valeur.
Pas forcément toujours, mais il faut pas oublier de toute façon qu'il y a des moyens plus économiques de jouer aux jeux de société. Il y a le marché de l'occasion, on vient de le voir, mais on peut jouer dans des associations, dans des festivals, dans les ludothèques. Ça permet de pouvoir jouer moins cher en fait à des jeux, de rencontrer des joueurs.
Et de découvrir le jeu s'il vous plaît vraiment avant de l'acheter surtout.
Exactement, en plus donc de faire parfois même des économies, stopper des achats coup de cœur et se poser un peu pour essayer de faire des achats réfléchis. Parce que les flots incessants de nouveautés chaque semaine, ça nous rappelle aussi que lors de notre jeunesse, Matt, surtout la tienne et la mienne aussi, on se contentait pour la plupart d'entre nous de 2 ou 3 jeux qui ressortaient chaque week-end.
C'est vrai.
Et dont on a gardé quand même de super souvenirs. Tu vois, je reparle de mon toucher-coulé computer de chez MB, par exemple.
Mais oui, voilà. Il y avait...
Alors, le jeu de société, ça nous procure des sensations, ça nous fait vivre des émotions, tu sais, comme une célèbre carte de crédit, et ça n'a pas de prix.
Ouais.
Et c'est là-dessus qu'on va finir cette rubrique.
Eh ben merci beaucoup Ludouf. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau numéro de C'est Ludique.
Absolument, passez une bonne semaine.
Salut Ludouf.
Au revoir.